La nuit du 7 au 8 mars 2020, je l'ai passée au Louvre, seule. Seule et à la fois tout sauf seule. Dans la section des antiques, dans la salle des cariatides. Même si j'ai été contrainte au cours de la nuit de déplacer mon lit de camp, car les lieux ont une âme, les lieux ont une vie, surtout dans le noir. Et il arrive que les endroits les plus visités, les plus arpentés, se déploient une fois vides et se vengent à leur façon en chassant ceux qui auraient eu la présomption de s'attarder. Ou peut-être sentent-ils ces lieux que l'on n'a pas la conscience entièrement tranquille, que l'on n'a pas le cœur entièrement tranquille. Yakuta Alikavazovic est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son nouveau livre intitulé « Comme un ciel en nous ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Alain Bashung.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous les faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, immortel. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
Êtes-vous devenue une grande personne aujourd'hui, Yakuta ?
Quelle excellente question. J'ai envie de vous répondre oui, et c'est peut-être la preuve que non. Car il n'y a que les enfants qui veulent être grands.
Dans votre dernier livre, « Comme un ciel en nous », vous parlez de la difficulté de grandir. Et manifestement, vous êtes resté dans le pays de l'enfance, et puis brutalement, vous en êtes sorti avec une certaine violence pour aller le plus loin possible. Loin de la langue française, loin de cette terre française où vous êtes né, le plus loin possible de vous aussi.
Le plus loin possible de moi, et c'est là que je me suis, sinon trouvée, du moins inventée, construite, puisque j'ai embrassé l'anglais comme langue de choix, ça n'était pas l'évidence, disons, puisque je suis née à Paris à la toute fin des années 70, de parents qui étaient tous les deux originaires d'un pays qui n'existe plus aujourd'hui, qui est la Yougoslavie. Et j'ai grandi dans une famille, dans un milieu biculturel, multiculturel. Nous parlions serbo-croate à la maison. Je parlais français à l'extérieur de la maison, petit à petit, comme on s'aventure à l'extérieur. Et la question de la langue, évidemment, je n'y pensais pas comme ça. Je n'y ai jamais pensé comme ça avant d'être adulte, un peu adulte, avant assez récemment. La question de la langue, elle cristallise toutes les questions de l'origine, toutes les questions, mais pas seulement de l'origine, de l'émotion aussi, de l'affect. C'est-à-dire que j'ai été bercée par une langue qui n'est pas celle que nous parlons ce soir. Ça n'est pas la langue dans laquelle on m'a chuchoté « bonne nuit ». Ça n'est pas la langue dans laquelle on m'a dit « je t'aime » toutes les premières fois. Peut-être finalement que moi, à l'adolescence, au sortir de l'adolescence, je regarde vers les États-Unis, je regarde vers l'anglais, peut-être pour sortir de cette dualité-là, pour trouver une troisième voie, pour trouver ma voie, une voie qui serait la mienne, une langue qui serait la mienne, qui reste à apprendre entièrement, et je m'y attache avec passion, vraiment une forme de passion amoureuse pour la langue
anglaise. De la même manière que votre père a appris la langue française quand il est arrivé sur le territoire français.
Précisément, et cela évidemment au moment où moi je me détourne du français et du serbo-croate, qui ne s'appelle plus comme ça à ce moment-là, puisque la guerre en ex-Yougoslavie a eu lieu à ce moment-là, je n'ai pas conscience que dans cet apprentissage de l'anglais, je ne suis pas moi, mais plus la fille de mon père, puisque lui-même est arrivé, sans parler français, il apprend la langue. Il l'apprend ici, à Paris, il l'apprend au Louvre, et il l'apprend dans les livres. Dans ces livres où il entoure, comme on fait, comme moi je ferais dans les années 90, il entoure les mots qu'il ne connaît pas. Mais je n'avais pas conscience que j'étais en train de rejouer quelque chose d'une histoire familiale par cet apprentissage-là. Je m'en suis rendu compte, en fait, en écrivant ce livre-ci.
Votre nom, votre prénom, Yakuta Alika Vasovitch, vous ont désigné, j'imagine, et ce depuis l'enfance, comme une étrangère. Et cette histoire d'habiter ce nom-là et d'être autre chose que le nom qu'on habite ne cesse d'être tissé comme une sorte d'obsession à l'intérieur de vos livres. Et dans votre second livre, sur Londres-Louxor, il y a cette remarque que fait un personnage, le mystérieux vice-président du Londres-Louxor, qui dit, je vous cite, « Quand bien même je serais né en France, quand bien même je serais né dans le 8e arrondissement de Paris, un arrondissement de confiance, haussmannien, résidentiel, on me demanderait encore d'où je suis. Ça vient d'où ce nom ? Chacune de ces questions ouvrait immédiatement la distance entre l'origine et le présent. Et cette question du nom et de l'assignation d'identité par le nom, dont hélas on entend beaucoup parler ces derniers mois dans cette pré-campagne présidentielle, elle se retrouve aussi à l'intérieur de votre livre, votre dernier livre.
Mais oui, elle se retrouve d'une...
La Yougo de service,
la non Yougo de service.
Vous n'êtes pas la Yougo de service.
Je ne suis pas la Yougo de service. J'ai eu, bon, comme beaucoup de gens qui ont des noms à consonance étrangère, j'ai eu mon lot de remarques plus ou moins déplacées, plus ou moins blessantes, pas toujours mal intentionnées, c'est pas forcément de la malveillance, mais ce raccourci qui fait d'une question qui devrait être « c'est de quelle origine ?» qui devient « tu viens d'où ?» alors qu'on est né, soit moi je suis née à Paris. Donc comment répondre à cette question ? Et cette question, elle ouvre, mais pour tous les jeunes, je déteste cette expression, mais je vais quand même la prononcer pour qu'on sache de quoi on parle, issus de l'immigration, comme on dit, qui sont donc de deuxième génération en réalité, puisqu'ils sont nés en France, comme je le suis, il y a cette brèche qui s'ouvre, il y a ce sol qui se dérobe sous vos pas, comme ça, quand on vous demande « mais tu viens d'où ?» Parce que cette question, la réponse, elle devrait être simple, et elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas intimement, elle ne l'est pas affectivement, elle ne l'est pas non plus, hélas, collectivement. C'est collectivement qu'elle devrait être simple, cette réponse.
Vous venez d'où ? Je pourrais répondre à votre place, je ne sais pas si vous serez d'accord. Je viens d'un pays qui s'appelle la langue française. et que depuis une douzaine d'années, vous avez réinventé, avec grâce, dans les différents registres de votre écriture, Yakuta. Et cette langue française, vous la détournez, vous la maîtrisez tout en la détournant. Vous inventez par les fictions des registres oniriques, des mondes imaginaires, des personnages auxquels nous croyons. C'est ça votre port d'arrimage, c'est cette langue française que vous réinventez à votre manière?
Mais je crois, merci de ce que vous me dites, Laure Adler, ça me touche beaucoup. Ça ressemble beaucoup à ce que je crois essayer de faire. Cette langue française qui est comme une mer, mais comme un océan en vérité, qui est mouvante, que j'ai apprise, que je ne tiens pas. Ce n'est pas ma langue paternelle. Donc c'est une langue qui pour moi est presque sui generis. C'est très étonnant quand on y pense. Je l'ai apprise dans l'air du temps, disons. Évidemment, pour avoir été scolarisée, pour avoir été acculturée en France, cet apprentissage il s'est fait très tôt. Mais c'est une langue dans laquelle la perception de flotter est pour moi la plus précise. Et cette perception, cette impression de flottement, elle a été pour moi le non-secret, le mouvement et la cadence de ma solitude d'enfant unique, bien sûr, mais aussi de ma solitude d'enfant, voilà, de ces parents-là, issus de cette histoire-là, très singulière. Et cette langue comme ça qui était un monde, mais un monde mystérieux et un monde qui était entièrement à découvrir, à inventer. Alors ce que vous me dites, ça me touche d'autant plus que bien entendu, je peux pas m'inscrire dans une filiation immédiate dans la langue française. Ma famille à moi, ce sont les écrivains, ce sont les auteurs et les autrices que j'ai aimés dans cette langue-là. Et toute la question, quand on se dit, quand on a la faut beaucoup de présomption, mais aussi beaucoup d'humilité pour écrire. Du moins, ça a été mon expérience. C'est-à-dire que d'un côté, il faut oser, il faut vraiment assumer son désir et y aller, et se dire oui, j'ai quelque chose à écrire. Et puis, il faut aussi beaucoup d'humilité, parce que c'est un monument, la langue française aussi. Pour moi, c'est une mère, mais c'est aussi un monument. Une mère, M-E-R. De cette dualité de rapport entre l'extrêmement mouvant et l'extrêmement solide, le très patrimonial de la littérature française, de Flaubert, que j'ai aimé passionnément quand j'étais jeune, est venue peut-être cette impression de, voilà, d'avoir peut-être une petite musique qui m'est particulière et qui est finalement celle qui se glisse dans ma phrase, qui est finalement celle qui se glisse dans mes livres, dans tous mes textes, que moi je n'entends pas ou n'entends jamais sa propre voix, mais qui est peut-être un petit peu tout de même porteuse de cet ailleurs dont je suis issue.
Dès le début, Yakuta, vous avez été remarquée par la critique et vous avez été honorée des plus grands prix. Dès le premier livre, et ça a continué, puisque vous venez d'obtenir justement un grand prix dans la rentrée littéraire avec le Médicis Essai. Je crois que c'est parce que vous avez inventé votre langue qui est très précise et rigoureuse, tout en maintenant une sorte de flou et d'incertitude. Et on a l'impression d'être dans un film de David Lynch quand on vous lit. C'est-à-dire que les personnages vivent dans une sorte de brouillard. Ce n'est ni le jour ni la nuit, mais c'est plutôt la nuit. D'ailleurs, l'avant-dernier livre se passe dans la nuit. Les temps sont abolis. Le rythme du quotidien est effacé. L'amour est toujours là, mais en même temps, il est vagabond. Il n'est jamais éternel. En même temps, il y a une sorte de maîtrise, à la fois dans la construction de tous vos livres, que ça soit le Londres Luxor, les corps volatiles, la blonde et le bunker, une sorte de maîtrise, comme, et on sait, je sais que vous aimez beaucoup aller au cinéma, comme si vous étiez une Hitchcockienne de la littérature française. Est-ce que le mystère, le suspense sont des ingrédients et des valeurs en soi dans la tessiture de votre écriture, Yakuta?
Alors oui, je distingue deux choses dans ce que vous dites. Je distingue cet aspect peut-être un peu onirique, peut-être un peu flottant, un peu déstabilisé, un peu déstabilisant aussi peut-être dans certains de mes livres, dont j'ai très sincèrement, et je dis ça absolument sans coquetterie, mais j'ai mis du temps à comprendre de quoi on me parlait quand on me parlait de ça. Parce que ça, c'est mon rapport au monde. Et comme tout rapport au monde...
Vous ne comprenez pas ce que vous écrivez, vous écrivez ce que vous ressentez.
C'est-à-dire, j'avais pas l'impression que c'était particulièrement désorientant, disons. Puisque c'était à l'image de mon rapport au monde, lequel j'en suis venue à l'accepter, et sans doute un peu désorientée. Voilà, une fois que j'ai compris ça, c'est devenu très intéressant, parce que c'est devenu presque une devise, presque un projet romanesque en soi. Écrire des livres qui rendent compte, d'une certaine façon, de la très grande désorientation qu'on peut vivre, que l'histoire peut nous infliger au travers de ces grands événements, au travers des guerres, au travers aussi des événements intimes que l'on vit, de ces guerres amoureuses que chacun a vécues ou vivra dans sa vie. Donc à partir du moment où j'ai compris de quoi on parlait, c'est presque devenu une réflexion supplémentaire à mon écriture. Quant à la question du mystère, parce que là, s'il y a une volonté, elle est plutôt du côté du mystère que du flou comme ça, ou du flottement de cette heure bleue qui nous est chère à toutes les deux. Pour ce qui est du mystère, pour ce qui est de cette question de l'énigme, de l'enquête, de l'ambiance, ça, oui, ça m'est venu beaucoup du cinéma, du roman noir également, puisque j'ai été, comme beaucoup de jeunes américanistes, j'ai été très lectrice de Chandler, l'un des plus grands romanciers de langue anglaise, à mon sens, le créateur du détective, de l'inoubliable privé Philippe Marlowe. Mais le mystère, le suspense, qui est aussi évidemment la grande création hitchcockienne, qui en est le maître, ça me semblait aussi une forme de courtoisie envers les lecteurs. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait quand même leur donner une raison, autre que moi et mon étrange regard sur le monde, une raison de continuer à lire et de tourner les pages des livres les unes après les autres. Moi, je sais que dans ma vie de lectrice, c'est quelque chose qui a beaucoup compté également pour moi.
Alors, je ne sais pas si Joyce Carol Oates a beaucoup compté, mais en tout cas, s'il y a bien quelqu'un qui entretient le mystère, le suspense et qui a un besoin d'écrire organique, vital, et qui se déploie dans différents genres, que ce soit des enquêtes biographiques, des romans complètement fictionnels ou des essais politico-poétiques, c'est bien elle. Je vous propose de l'écouter. Elle va évoquer son besoin d'écrire et ses différentes formes d'écriture. Je précise, Yakuta, que vous aussi, vous pratiquez la diversité des genres d'écriture. On a parlé de vos romans, on parle de ce dernier livre qui est Une nuit passée au Louvre, mais vous écrivez aussi de manière absolument extraordinaire des livres pour enfants. Je vous propose d'écouter Joyce Carol Oates, c'était en 2016.
Oh, I have always wanted to write. When I was a girl,
à vrai dire, j'ai toujours voulu écrire. Je me souviens, lorsque j'étais petite, je veillais. Mes parents pensaient que j'étais déjà au lit. En fait, j'étais encore debout et j'écrivais. Et toute ma vie, j'ai eu ce besoin d'écrire, cette nécessité. Et c'est difficile de présenter quelque chose sous la forme d'une fiction. J'ai aussi écrit mon journal, j'ai écrit des mémoires. Mais la présentation d'un récit dans une langue formelle, c'est quelque chose de difficile à faire et c'est très intéressant et excitant.
Est-ce que les poèmes irriguent la totalité de votre travail ?
Non, je pense que toutes ces formes d'expression sont très intéressantes. J'écris souvent des monologues assez dramatiques, ce sont des gens qui parlent et qui sont donc liés à mes histoires. J'écris aussi des pièces. Dans les pièces, on a des gens qui parlent. Et ce qui m'intéresse, c'est la voix humaine. J'aime l'entendre. J'aime entendre des dialectes étranges, du vocabulaire un peu particulier. Aux États-Unis, il y a des manières de s'exprimer très disparates et très étranges, et c'est fascinant.
Nous venons d'entendre la voix de Joyce Carol Oates, qui publie ces jours-ci un énorme bouquin en traduction française, tout aussi magnifique que les précédents. Vous, pour la première fois, Yakuta, vous passez à la forme autobiographique par rapport au livre précédent. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce que vous avez différentes voix VOIX à l'intérieur de vous? Parce que quand on vous lit, on imagine vos personnages. On leur donne une existence presque réelle. On les voit physiquement se déplacer.
Je les aborde souvent, ces personnages, souvent de l'extérieur. Et souvent, j'entends tant si j'entends leur voix, je ne maintiens pas absolument que j'entends des voix, mais si j'entends leur voix, elle est pas étrangère à la mienne, c'est impossible. Mais enfin, elle a une forme de singularité qui se distingue pour moi de celle de mon petit monologue intérieur. Et c'était intéressant d'aller vers cette voix-là, justement, la voix plus intime, la voix du je, qui est aussi une forme de construction, ça j'en doute pas du tout, une construction littéraire, évidemment, parce qu'il suffit pas d'écrire je pour être ni dans la justesse, ni même dans l'intimité, ni dans quoi que ce soit. Tout ça, ce sont en réalité des créations du texte, des créations littéraires. La question de la voix, alors je n'ai pas... Il y a quelque chose que j'admire énormément chez Joyce Carol Oates et chez d'autres écrivains, c'est justement ce talent de restituer les voix, d'être un peu les ventriloques dans leur œuvre. Je ne m'y risque pas avec mes personnages. En revanche, il m'est plus facile, je crois, de jouer de ces décrochements, de ces registres différents, et même peut-être de différentes langues, puisque j'en parle plusieurs, et je rêvasse dans plusieurs langues, quand je passe au jeu.
En tout cas, votre écriture est aussi pleine d'humour, de choses trappes qui existent au cœur même de la langue française que vous utilisez pour écrire. Et j'ai oublié de dire quelque chose de très important, c'est que vous êtes aussi traductrice. Et vous avez parlé tout à l'heure de ce moment où vous avez décidé de vous éloigner de votre propre père pour essayer de trouver votre propre construction personnelle. Et vous avez changé votre apparence physique, vous avez fait des tout petits boulots merdiques, vous avez parlé une langue écorchée qui ne vous habitait pas. Et quand même, vous avez appris l'anglais. Non seulement vous avez appris l'anglais, mais vous êtes une passeuse de l'anglais. Et vous avez traduit notamment l'un des écrivains les plus difficiles à traduire, c'est Vladimir Nabokov, notamment dans L'Enchanteur. Je vous propose d'écouter sa voix, il va parler des romanciers. C'est une archive INA, c'était au micro de Bernard Pivot dans l'émission Apostrophe, et c'était le 30 mai 1975.
On me demande assez souvent qui j'aime et qui je n'aime pas parmi les romanciers engagés ou dégagés de mon siècle merveilleux. Eh bien, tout d'abord, je n'estime point l'écrivain qui ne voit pas les merveilles de ce siècle. Les petites choses, le laisser-aller du costume masculin, la chambre de bain, qui remplace l'immonde lavabo. Les grandes choses... comme la liberté sublime de la pensée dans notre double Occident. Et la lune, je me rappelle avec quel frisson de délice, d'envie et d'angoisse, je regardais à l'écran de la télévision les premiers pas flottants de l'homme dans le talc de notre satellite. Et comme je méprisais tous ceux qui soutenaient qu'il ne fallait pas la peine de dépenser tant de dollars pour marcher dans la poussière d'un monde mort. Je déteste donc les colporteurs engagés, les écrivains sans mystère, les malheureux qui se nourrissent des élixirs du charlatan viennois. C'est Freud encore.
Malheureux.
Ouais, il n'est plus là, mais... ceux que j'aime d'autre part savent que le verbe seul est, voilà, justement, est la valeur réelle du chef-d'œuvre. Un principe aussi vieux que vrai, ce qui n'arrive pas tous les jours. Il n'est pas nécessaire de nommer qui que ce soit. On se reconnaît par un langage de signes à travers les signes du langage. Ou bien, au contraire, tout nous irrite dans le style d'un contemporain détestable, même ses points de suspension.
Nous venons d'entendre Nabokov, et effectivement, d'abord c'est un grand plaisir de l'écouter, mais en l'écoutant je me disais que finalement c'était peut-être non seulement quelqu'un que vous avez su traduire, Yakuta, mais quelqu'un qui vous a peut-être influencé énormément littérairement. Parce que le chatoiement, l'imprécision dans le sens psychique du terme, l'absence d'assignation, le trouble.
Ah, mais c'est un écrivain extraordinaire, extraordinaire dans cette
la perversité dans cette aussi langue, qui oui. appartient à votre vocabulaire et
oui,
à vos thématiques.
C'est vrai, mais cette faculté de s'émerveiller du monde. Alors juste une toute petite précision, je pense Laura Dler que vous lisez dans mon cœur, parce que je n'ai pas traduit Nabokov, j'ai traduit L'Enchanteur, j'ai traduit ce très bel essai sur Nabokov qui fait la part belle à sa voix, bien sûr, où on l'entend sans cesse, mais Nabokov a des traducteurs autrement plus aguerris que moi. J'aimerais un jour me colter à autre chose que des bribes non traduites comme ça, ici et là.
Ben ça viendra.
J'espère. C'est un auteur extraordinaire. Extraordinaire dans sa capacité à jouer et à créer, à recréer ce monde dont il dit s'émerveiller. Il en est absolument l'auteur. Et il en est l'auteur par cette langue qui est joueuse, qui est fleurie, qui est précieuse. Oui, il m'a beaucoup influencée parce que je l'ai lu beaucoup et avec beaucoup de joie, avec un plaisir réel. Lolita, Ada, enfin, les grands romans et puis le reste, bien sûr. Aussi parce qu'il y a une liberté chez lui, on l'entend quand il parle français, il y a une liberté de celui dont ce n'est peut-être pas la langue première, ou en tout cas certainement pas la seule, puisque c'était un grand polyglotte, Nabokov. Il y a cette faculté de jouer. Vous savez, quand on parle, maîtrise à ce point, quand on domine plusieurs langues de cette façon-là, en fait, on a des personnalités différentes selon les langues, le sens de l'humour est différent, la façon de voir le monde est différente, et même le monde est différent, puisqu'on ne remarque pas les mêmes choses dans les mêmes langues. C'est très étonnant, moi j'en fais l'expérience, je change de langue, j'ai régulièrement pu me rendre compte que, ah tiens, je ne vois pas les choses, littéralement, je ne vois pas les choses de la même façon, la langue est un instrument d'optique extraordinaire. Et ce qui me frappe quand on écoute Nabokov, en réalité, c'est une phrase que dans Comme un ciel en nous, j'emploie à propos de mon père, mais qui s'applique mieux à Nabokov qu'à mon père, c'est « il parlait comme un livre ». Et de ce malentendu-là, le soin que mon père a mis, mon père est un homme très conscient de sa présence et très conscient de son étrangeté, au sens premier, dans le pays qu'est la France. Je ne m'en rendais pas compte quand on est enfant, parce que quand on est enfant, le plus intime, le plus familier, c'est toujours la norme. C'est toujours ce qu'il y a de plus banal et de moins racontable, finalement. Mais enfin, mon père avait un grand soin à son apparence, aux apparences. Il ne voulait surtout pas faire pauvre. Ce qui est très touchant, puisqu'il est arrivé en France sans un sou. Je l'ai entendu dire que si on est étranger et qu'en plus on fait pauvre, on est fichu. À ses yeux, il y avait trois façons de faire pauvre. C'était d'avoir des mauvaises chaussures, un mauvais manteau et un mauvais français. Et ce soin comme ça, cette recherche à avoir le vocabulaire le plus étendu, le plus châtié, c'est quelque chose que j'ai connu chez lui et puis chez tous les amis un peu cosmopolites de mes parents quand j'étais enfant, que je retrouve dans la voix de Nabokov quand on l'écoute, qui m'émeut pour ça énormément.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix de Yakuta Alika Vazovic, eh bien c'est Lana Del Rey.
Fast car whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the living, if somebody is loving me. bars, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I.
Il a fallu du temps. Il a fallu beaucoup de temps. Il a fallu plus longtemps qu'il en a fallu à Léonard de Vinci pour la peindre. Il a quand même mis 5 ans à la peindre, au moins. Moi, il m'a fallu près de 20 ans pour vraiment aimer la Joconde. Oui, l'aimer, pas seulement l'admirer. Hein. L'aimer vraiment, je trouve, c'est effectivement un des plus grands tableaux du monde. Même si c'est pas nécessairement des plus émouvants, quoique, franchement, des tableaux qui ont eu autant de commentaires enthousiastes jusqu'à la folie, hein, de la part des gens qui aimaient ce tableau, montre que c'est un tableau qui, effectivement, touche ses spectateurs, les a touchés. Alors, moi, j'étais comme un spectateur normal du XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, on va dire. C'est-à-dire, on avait tellement vu la Joconde, on la connaissait tellement. Puis Duchamp l'avait réglé son compte, que la Joconde est devenue plus une raison de plaisanterie qu'autre chose. Parce qu'une fois que Duchamp l'avait reproduite en écrivant juste en dessous, comme vous le savez, L.H.O.O.Q. Donc, L-H-O-Q, on ne peut plus prendre au sérieux la Joconde, ni les gens qui la prennent au sérieux. Il m'a fallu remonter ce handicap du champion par rapport à la Joconde, non pas pour retrouver le regard de Léonard de Vinci sur la Joconde ou du contemporain sur la Joconde, mais simplement pour essayer de comprendre comment se fait-il qu'un tableau peint dans une circonstance tout à fait particulière, il y a bientôt 500 ans, puisqu'il était peint entre 1503 et 1508, comment se fait-il qu'un tableau puisse avoir, à 450 ans de distance ou 500 ans, encore un tel effet? Qu'est-ce qui se passe?
Nous venons d'entendre le regretté Daniel Arras, grand historien d'art devant l'Éternel, qui en 2001 avait fait pour Radio France toute une histoire de l'art, et qui là parle de la Joconde. Alors la Joconde, c'est votre héroïne à vous, Yakuta. C'est celle avec laquelle, bah, comme tout le monde, vous avez peut-être envie de dormir, mais vous, vous allez réussir. Vous allez passer une nuit au Louvre, ce qui est quand même un très grand privilège qui n'est donné à personne, sauf aux grandes écrivaines comme vous. Et vous allez donc passer la nuit du 7 au 8 mars 2020. 7 au 8 mars 2020, c'est juste avant le premier confinement d'ailleurs, mais vous ne le saviez pas. Mais ce Louvre, à l'intérieur duquel vous rentrez, avec votre sac de couchage et un petit bagage, avec un tout petit peu de nougat que vous essayez de soustraire au portail électrique, mais vous réussissez à rentrer avec votre nougat et votre sac de couchage. Finalement, ce Louvre, vous le connaissez par cœur, parce que même si vous êtes une grande fille, vous le connaissez depuis que vous êtes une petite fille. Et votre père, le Hugo et vous a expliqué depuis que vous êtes petite, quand il allait au Louvre, qu'était son territoire, qu'était sa patrie, qu'était sa maison la plus intime, puisqu'il y passait des journées entières en compagnie de sa petite Yakuta, il disait à sa petite Yakuta, et toi, comment t'y prendrais-tu pour voler la Joconde?
Oui, c'est une phrase qui a rythmé ces années-là. C'est une phrase que j'ai beaucoup aimée, qui était délicieuse, qui ouvrait un territoire de jeu comme ça, et de complicité et d'espièglerie inouïe et très très précieux pour la petite fille que j'étais. C'est-à-dire, c'était un espace de liberté. Pour moi, c'était vraiment... Cette phrase, elle est vraiment à l'image de mon père, de la fantaisie de mon père, de son côté un peu peut-être aussi un peu filou par certains aspects. Voilà, bon, les chemins de traverse qu'on emprunte. Avant tout, c'était un ravissement. C'était un ravissement. Et c'était un ravissement d'être... s'accomplissent en réalité, parce que le grand braquage, c'est pas celui dont on parlait, c'est pas voler la Joconde. On échafaudait des scénarios absolument incroyables. J'en ai plusieurs encore là, dont je pense que certains peut-être sont viables, mais je sais pas.
Vous pouvez toujours essayer avec votre père.
J'aimerais bien, je vais l'embarquer et ce serait un beau cadeau à lui faire, je pense. Mais non, en vérité, le grand braquage, il a eu lieu avant ma naissance, puisque le grand braquage, c'est ce moment où mon père, un petit jeune homme comme ça, d'une vingtaine d'années, quitte Belgrade, quitte ses études d'économie, débarque en France, débarque à Paris, et décide de devenir l'homme qu'il souhaite être, décide de devenir l'homme qu'il rêve être. On écoutait Lana Del Rey. C'est une artiste qui est une jeune femme qui est devenue celle qu'elle voulait être, celle qu'elle rêvait d'être, qui est devenue son propre personnage. Il y a de ça chez mon père. Il y a de ça dans ce moment à la fois fou et puis qui présentait toujours avec beaucoup de panache comme si c'était la chose la plus simple du monde. Les enfants acceptent la parole parentale, hein. Moi, cette simplicité-là, c'est très tard que je l'ai remise en question. Je l'ai remise en question quand je me suis frottée, moi, à ce que pouvait être la vie dans une autre langue, dans un autre pays, alors que pourtant, cette langue, je l'avais étudiée, alors que pourtant, j'avais quand même du bagage, quoi, comme on dit, malgré tout, sans doute davantage que lui n'en avait en arrivant au tout début des années 70 en France. Je me suis dit, mais cette facilité-là, quel tour de passe-passe, quelle création, c'est presque une fiction. Tout repose sur un effet de manche, comme ça, de récit. Je suis venue à Paris pour le Louvre, et hop, d'un seul coup, tout est enchanté, tout est enchanteur, et moi, je suis le produit de cet enchantement-là, d'une certaine façon.
Sauf que Yakuta, quand vous partez avec votre père pour le Louvre, et c'est arrivé très fréquemment dans votre enfance et votre adolescence, quand vous êtes une toute petite fille, il lui arrive à votre père de vous oublier dans le Louvre.
Il m'a laissé, il m'a dit « bouge pas, je reviens, tu restes avec elle ». Elle, c'était la Vénus de Milo. Bon... je reste là, et puis... Mais on ne sait pas, parce que le temps de l'enfance, on ne sait pas ce qu'il est réellement. Je ne sais pas, au fond, s'il est parti 3 heures ou 25 minutes. Ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, j'attends, voilà, il m'a dit, je reviens, tu ne bouges pas. Puis j'attends, puis il ne revient pas, puis il ne revient pas. Mais je pense que tout le monde a cette expérience-là, quelque part, dans son enfance. On se retrouve soudain au bord d'un précipice, et on se dit, ah ! Et s'il ne revient pas ? Et si, pour une raison ou pour une autre, on n'élabore même pas des hypothèses, enfin, c'est pas, ou du moins c'est pas comme ça que je me souviens de ce moment-là, mais vraiment cette espèce de précipice de « et si en fait le monde que je connais était fini ?» Si cette personne en qui j'ai toute confiance me dit « je reviens, reste là, et puis qu'est-ce que je vais faire seul au monde ?» Évidemment, c'est le début d'un roman, mais... Ça appartient à cette atmosphère de conte, comme ça, des premières années, puisqu'on nous oublie, ou pas d'ailleurs, mais les contes sont un peu cruels aussi parfois. On perd les enfants dans la forêt, ils doivent se débrouiller un peu par eux-mêmes aussi. Et finalement, c'est vrai de tous les enfants avec leurs parents, on doit s'en débrouiller comme on peut. Hein. Mais voilà, mais ce livre-là, en tout cas, ce retour au Louvre, comme ça, de nuit, avec mon petit paquetage, mon petit et ce sentiment quand même de transgression qu'il y a à se retrouver dans un lieu comme le Louvre, de nuit, toute seule, avec sa brosse à dents, on va pieds nus se laver les dents. Et on passe devant la Victoire de Samothrace, devant le Sphinx, et on cherche un lavabo pour se laver les dents. C'est quand même une chose extraordinaire qui, pour moi, est liée, et que j'ai reliée, parce que la littérature a cette capacité-là, quand même, de réinnerver, en fait, les liens entre différents moments du temps. Vous disiez tout à l'heure, dans vos livres, parfois, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, tout est sur le même plan, mais c'est vrai dans la mémoire, en fait, c'est vrai dans la façon dont on vit les choses. D'un seul coup, quelque chose qui est révolu depuis 30 ans, hop, vous revient et l'émotion est intacte. C'est très étonnant, ces choses-là. Et c'est là vraiment la matière dont la littérature est faite, je pense.
Alors, ce qui s'est passé dans cette nuit au Louvre, ça a été la propre redécouverte de votre liberté. Vous avez pu danser sur le marbre du Louvre, vous avez pu regarder des tableaux quand personne d'autre ne les regardait, vous avez pu vous allonger et caresser des statues, évidemment interdites au toucher, mais surtout, vous avez fait un voyage à l'intérieur de votre mémoire. Il n'y a pas que votre père à l'intérieur de ce livre bouleversant, Yakuta. Il y a aussi votre mère. Et il y a aussi le passé tragique de ce pays que vous avez mentionné qui n'existe plus, l'ex-Yougoslavie. Je vous propose d'écouter un reportage de Martine Laroche-Joubert à Sarajevo. C'est une archive INA du 17 juin 1992, c'est-à-dire 2 mois après le début du siège à Sarajevo.
Regard furtif, visage trop pâle, ils quittent leurs abris et se risquent dehors le long des murs, le temps d'une accalmie. Les habitants de Sarajevo vivent un enfer au quotidien. Fenêtres protégées, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'essence. D'ailleurs, les voitures sont criblées de balles par les snipers, ces francs-tireurs payés par les Serbes quand ils poussent une cible, n'importe laquelle. Les magasins sont fermés, les habitants vivent sur leur stock. Est-ce que vous avez de la viande ? De la viande ? On n'en a pas vu depuis longtemps. On en rêve. Nous n'avons même plus d'eux. C'est pire que la Deuxième Guerre mondiale. Le voisin tue le voisin. Et on n'a rien à manger. C'est tout.
Qu'est-il arrivé à votre famille à Sarajevo, Yakuta ?
Alors c'est la famille de ma mère, vous avez raison, Laura Adler, qui est de Bosnie, qui était en grande partie à Sarajevo. Alors certains sont partis, une partie est venue, est allée en Scandinavie, une partie est venue chez nous à Paris, et puis une partie est restée dans une ville assiégée pendant des mois, pendant des années. C'est des choses. Alors c'est difficile d'en parler avec eux, je peux un peu, maintenant, on arrive un peu à parler. Très longtemps, j'osais à peine évoquer ces années-là. Eux-mêmes ne souhaitaient pas forcément y revenir. Mais ce sentiment de danger quotidien, constant, avec lequel on apprend à vivre. Et c'est très étonnant quand on est à l'extérieur, comme nous le sommes. Bon, ce sentiment-là, c'est presque une... J'arrive pas à comprendre comment on s'y fait à ce point. Ça devient c'est le nouveau normal, en fait. Voilà. C'est ça, c'est l'obscénité. L'une des grandes obscénités de ces situations de guerre-là, c'est que finalement, ça devient le nouveau normal pour la population, qui subit ça sur une certaine durée. Et c'est un scandale. C'est plus qu'un scandale, c'est une obscénité. Vraiment, je pense que le mot est approprié. Et ce moment où on voit toute la matière de sa vie se défaire et où tout ce dont on croyait que c'était le plus solide, c'est-à-dire vraiment le bâti, les bâtiments, les immeubles, en fait, c'est pas si solide que ça. Ça s'effondre, c'est pilonné, on tire dessus, on était chez soi tranquille et puis d'un seul coup, on n'a plus d'eau, on n'a plus d'eau courante, on n'a plus d'électricité. C'est quelque chose que par procuration ou par rebond, vous voyez, je suis très émue même quand j'en parle, parce que ça a été, et ça reste pour moi et les miens, j'imagine, une forme de rupture quand même très... La vie a continué, la vie a repris, comme on dit. C'est un cliché, et dans les clichés, bon, mais il y a du vrai, c'est pour ça que c'est des clichés. Mais il y a quand même cette espèce de brèche incroyable. Et quand je dis le plus solide, c'est pas seulement les bâtiments, c'est pas seulement le matériau même de la ville, ce qui est déjà terrible en soi, d'assister et de vivre dans une ville en cours de destruction, mais c'est aussi les relations humaines qu'on croyait les plus solides. C'est effectivement des voisins qui, du jour au lendemain, vous adressent plus la parole, voire vous désignent comme population à abattre. C'est ces espèces de tragédies dans certaines familles qui ont fait que des couples, des familles explosent. D'autres pas du tout, au contraire, mais certaines explosent pour des raisons de loyauté divergente et finalement de trahison. Donc oui, et moi, c'est ce moment-là où, en fait, je sais sans savoir que c'est quelque chose... J'ai beau y faire, moi, dans ma petite vie d'adolescente à Paris, j'ai beau y faire, c'est quand même un tournant, une rupture, un tournant, je sais pas, presque un mur que je me prends quand même à ce moment-là. Dans la confiance que j'ai en ce monde que je suis en train de découvrir, comme font les jeunes adolescentes, les jeunes adolescents, en l'humanité d'une certaine façon aussi, puisque c'est quand même des drames humains, des tragédies incroyables et si proches de moi, si proches, mes tantes, mes cousines, enfin je veux dire... Comme ça, des micro-histoires, des micro-histoires qui ont chacune leur déchirement, qui ont chacune leur tristesse. Enfin, c'est ça la matière aussi réelle de ces conflits. C'est que quelque chose qui cède comme ça, qui cède peu à peu dans le rapport qu'on a à soi, aux autres, au monde. Et moi, mon rapport à l'art a changé, en tout cas à ce moment-là. Et c'est aussi l'un des points que j'aborde dans Comme un ciel en nous, c'est-à-dire que d'un seul coup, et je vais réutiliser ce mot d'obscénité, puisque d'un seul coup, il m'a semblé de plus en plus obscène de justement œuvrer comme ça activement à conserver des œuvres pendant des siècles, à leur faire traverser le temps en subissant le moins de dommages possible, alors même qu'on laissait des gens mourir chez eux, devant chez eux, au marché, voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressée à d'autres formes d'art, au Land Art, sur lequel j'ai travaillé ensuite, à un art qui n'est pas au musée, un art qui est davantage dans la vie, qui met davantage peut-être le corps en mouvement, ou d'une autre façon que la simple visite au musée, un art qui serait davantage une aventure, voilà. Et encore une fois, avec ce beau paradoxe que vous pointiez, Laura Adler, au début de l'émission, plus je développais des goûts et des sentiments propres, différents de ceux que mon père pouvait m'avoir transmis, par exemple, et bien plus je devenais en vérité sa fille. Moi, j'avais l'impression de m'éloigner, mais dans ce mouvement précisément d'indépendance, il s'est joué aussi une forme de transmission, puisque dans ce mouvement d'indépendance, il y avait quand même quelque chose du sien. Et je vois encore une fois, quand je prononce ces mots-là, combien j'ai eu une histoire heureuse avec ce père, et combien j'ai de la chance d'avoir eu ce père-là, plutôt qu'un autre, parce que malgré tout, malgré certains différends, évidemment, enfin, comme assez banal finalement, mais malgré tout, j'ai toujours trouvé des moyens d'être sa fille, jusqu'à ce livre. Et il a toujours également trouvé des moyens d'être mon père.
Je repars au petit matin. Ce que j'ai laissé au Louvre, je ne le dirai pas. C'est entre les lieux et moi, entre les œuvres et moi, entre le temps et moi. Peut-être s'agit-il tout simplement d'une petite fille et de son père. Et peut-être, en tendant l'oreille aux heures où la foule reflue, entendra-t-on sans jamais les voir leurs pas et leurs rires. Merci infiniment. Yakuta Alika Vazovic pour ce livre magnifique qui s'intitule « Comme un ciel en nous » et qui est publié dans la collection « Ma nuit au musée » aux éditions Stock, le nouveau Médicis Essai.
Nancy, si tu sais... savais, comme la mer est belle ce soir. Quand la lune s'est levée, j'ai cru t'apercevoir sur le sentier. L'étoile filante s'est sauvée hors de tout regard. Les yeux fermés, j'ai brodé les fils d'or de ton corps. La nuit a divulgué tes audaces dissimulées. La nuit a désarmé mes rêves les mieux gardés. Nancy, si tu savais comme la mer est belle ce soir. Quand la lune s'est levée, j'ai cru t'apercevoir au loin danser. C'est lent, c'est lent, Nancy. Nancy, c'est si lent. Si lent, c'est lent, Nancy. Tu as déjà mis ta robe blanche et ton visage resplendit, allongé comme évanoui. J'imagine que tu souris. Comme dit Rimbaud, à peu près, l'éternité, quoi, est retrouvée. Oh, bel Arthur, le supplice est sûr, Nancy s'en est allée.
Et c'est avec Nancy d'Arthur H. que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore, Yakuta Alika Vazovic. Je rappelle que votre livre, Comme un ciel en nous, est publié aux éditions Stock, dans la collection Ma nuit au musée. Merci à Grégory Vallon qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Elodie Royer, Iris Vertanessian et à Lilian Alloum qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission.